up acting funny. Say you know they pick my color, don't call you 10 times. Yeah, I love you. Even when I don't say it's a lie, no. Yeah, I miss you. Even when I don't say it's wrong, no. So now because of Jennifer, now she they do the daddy that, oh, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. She dey put sun for my gariyo. Come rain, come sun, I go love you better. But Jennifer, they lie, she just want your money. Now she be karashika, and she go give you fever. If you look into her eyes, you go notice she's a wizard. I see the fire road, I know, you dey go see wala. Get another girl, walk, get another girl, trap.
Stop lying, you like go pick you somebody.
De la paix. Il est 12h.
La fréquence de la paix. Yo, mais c'est. Hola, dame, monsieur. Yaga, yo. Yes, up the fire, could never stop at the wire. Yo, mais c'est. La paix, ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Y'a tellement de bonnes choses à partager. La paix, ensemble.
Du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix. À la une de ce 12h, la Côte d'Ivoire est la fierté de tous, mais doit continuer d'être rassemblée par une vraie réconciliation. Dixit le président ivoirien Alassane Ouattara, également président du RHDP, à l'attention des 231 candidats tête de liste de ce parti pour les municipales et régionales du 2 septembre prochain. C'était hier. À leur cérémonie d'investiture à Abidjan. Et puis, notre pays connaît une sixième vague de l'épidémie de dengue avec 73 cas confirmés, dont 2 décès. Une recrudescence due en partie à la grande saison des pluies. Le professeur Beignet Bivreau Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, faisait un briefing hier. Le point avec Paul-Bénédicte Bolou dans ce journal. Sur le continent, meurtre de l'opposant congolais chérubin au Kende Senga, Kinshasa. La police congolaise affirme avoir été un suspect. Et en fin de ce journal, l'invité de la rédaction, le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Il parlera de la maladie mentale qu'il dit élevée à 600 000 patients et de leur prise en charge, qui sera désormais l'affaire de tout agent de santé. Professeur Kwa Amessan Médard répondra à cette offre aux questions de Paul Bénédicte Bolou. Voilà pour le sommaire. Élections municipales et régionales du 2 septembre prochain doivent être pour tous, l'occasion de démontrer que la Côte d'Ivoire est vraiment unie et un pays où se manifeste le vivre ensemble. C'est entre autres par ces propos que le président ivoirien, également président du RHDP, a galvanisé les 231 candidats tête de liste de son parti quand il les investissait hier à Abidjan pour les municipales et régionales du 2 septembre prochain. Écoutons le président Alassane Ouattara.
Notre pays a une grande histoire. C'est vrai que les décennies antérieures ont été très difficiles. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la fierté, non seulement des Ivoiriens, mais de tous les Africains et même d'autres nationalités qui viennent nous rendre visite en Côte d'Ivoire. Nous devons en être fiers. Mais il faut maintenir ce rythme. Nous ne devons pas nous comporter comme si tout était réglé, comme si le pays avait atteint tous ses objectifs. Ce n'est jamais le cas. Le travail au quotidien doit se renforcer. La Côte d'Ivoire doit continuer d'être rassemblée. La réconciliation doit être vraie. Elle doit être permanente. Et également, l'amour du prochain doit être également un objectif pour chacune et chacun d'entre nous. Nous allons démontrer avec ces élections que nous pouvons encore faire mieux, même si nous avons près de 60% des députés, plus de 75% des régions, près de 80% du Sénat. Nous devons continuer d'avancer. Et je compte sur vous pour que notre grand parti avance et démontre que la Côte d'Ivoire continuera d'être un pays stable, un pays en paix, un pays de générosité et de solidarité.
À l'instant, le président ivoirien, également président du RHDP, Alassane Ouattara. Mais concernant ces prochaines municipales et régionales, le dépôt des candidatures portant ouvert depuis le 1er juillet et qui s'achève le 19 juillet prochain au siège de la CEI tous les jours, y compris samedi et dimanche, marque le pas. Les potentiels candidats ne se pressent pas de le faire. Pour le vice-président et porte-parole du PPACI, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y ait trop de papiers à fournir ainsi que la bureaucratie. En conséquence, il propose une prorogation de ce délai du dépôt des candidatures. Écoutons Koné Katina.
Le constat est général, mais c'est lié à une chose essentielle, c'est une élection de liste. Ça suppose que toute personne qui figure sur la liste candidate doit fournir le même nombre de documents et la même quantité de papierasse et ainsi de suite. Donc, évidemment, si vous avez 60-65 candidats qui figurent sur une liste, évidemment, la fourniture des documents est difficile. Et puis, ça tombe parfois avec les périodes de congés. Il y a des administrations qui ont pris des congés. Les services de l'État n'ont pas tenu compte, ou même des structures décentralisées qui délivrent un certain nombre de documents, n'ont pas tenu compte certainement de cette période-là, et donc il y en a qui sont en vacances. Donc, la délivrance des documents prend beaucoup de temps. Et je crois que c'est la raison principale. Peut-être qu'il faudra que la CEI, compte tenu de cette réalité, essaie de prolonger un peu la date pour permettre aux gens d'avoir leurs documents, compte tenu de ce que nous constatons comme lenteur, difficulté à avoir les documents administratifs. Nous suggérons humblement à la CEI d'analyser la possibilité de reporter, si possible, de quelques jours, le délai de dépôt, de validité de dépôt des candidatures.
Nous écoutions le vice-président et porte-parole du PPACI, Koné Katinan. Parlons de promotion de la bonne gouvernance. Le 11 juillet dernier, les pays africains membres de l'Union africaine ont célébré la 7e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption, JLC. En Côte d'Ivoire, la commémoration officielle a eu lieu hier jeudi au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan. Cette édition 2023, organisée par le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, a porté sur le thème « Gouvernance, éthique, valeur et intégrité du sport en Côte d'Ivoire ». Témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Balo-Zoro, a justifié les raisons du choix du thème retenu pour cette édition 2023.
En ce qui concerne notre pays, nous pouvons signaler un certain nombre de faits symptomatiques des insuffisances en matière de gouvernance. Nous pouvons signaler notamment la décision de la FIFA de mettre sous tutelle la FIFA, suivie de l'installation d'un comité de normalisation pour l'organisation des élections. Le deuxième élément, ce sont les conflits récurrents dans les fédérations et associations sportives.
Et au ministre de poursuivre.
Le gouvernement a donc décidé de renforcer la gouvernance du secteur du sport à partir de l'élaboration d'une politique relative à l'éthique, aux valeurs et à l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire qui devrait s'étendre sur l'année 2023 et 2025.
Pour le ministre des Sports qui a présidé cette 7e édition, il est plus que nécessaire d'imposer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans le milieu du sport pour l'assainir. Paulin Claude Dao.
Il faut que désormais la conception du sport sorte du ludique et prenne le chantier et les sentiers de l'économie du sport. Et pour ce faire, il faut de la bonne gouvernance. Parce que sans bonne gouvernance, tout ce qui a été fait comme investissement va aller à l'échec et devenir des éléphants blancs.
Ce 11 juillet marquait également le jour où l'Union africaine a adopté à Maputo, au Mozambique, la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption.
La Côte d'Ivoire enregistre sa sixième épidémie de dengue avec 73 cas confirmés, dont 2 décès. Cette épidémie de dengue touche plus la capitale ivoirienne avec 57 cas, une recrudescence due en partie à la grande saison des pluies, également aux problèmes d'assainissement et d'insalubrité. Le professeur Béné Bivro-Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, était hier jeudi face à la presse pour un briefing. Les détails avec Paul-Bénédicte Bolou.
Que savoir sur cette infection, professeur Béné Bivro-Joseph?
C'est une maladie due à un virus. Et ce virus-là, de la dengue, il y a 4 composantes. Il y a le sérotype dengue 1, il y a le 2, le 3 et le 4. J'ai mis le 3 en rouge parce que le 3, c'est la forme hémorragique. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas mortels. C'est une fièvre qui est transmise par la piqûre diurne dans la journée que le moustique pique. Et c'est le moustique femelle, c'est la femme du moustique qui pique. Il est assez caractéristique, il est un moustique zébré, noir et blanc. Et on le reconnaît facilement.
Existe-t-il un traitement ou un vaccin? On reste avec le directeur de l'INHP.
Le vaccin, c'est un vaccin qui n'est pas très efficace. Il y a des pays qui l'ont utilisé, mais ils l'ont rapidement abandonné. Il n'est pas utilisé à grande échelle. Mais je précise, il y a un traitement qui existe, mais c'est un traitement qui n'est pas étiologique. C'est-à-dire le traitement-là, il ne tue pas le virus-là. C'est un traitement qui est symptomatique. C'est-à-dire les signes que la personne présente, c'est ça qu'on traite.
Le risque de dengue dans une communauté dépend de l'attitude et des pratiques des populations, d'où cet appel du professeur Béné Bivro-Joseph.
La dengue, c'est une maladie qui est grave, mais c'est une maladie qui peut guérir. Si on va à l'hôpital, on peut en guérir. Et après, tout le monde n'en est pas mort. C'est une situation qui est préoccupante, mais elle n'est pas alarmante. Je veux qu'on retienne ça. Les populations doivent savoir que c'est sérieux, qu'elles doivent s'impliquer. La lutte doit être multisectorielle. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Il faut qu'on la mène ensemble. Le ministère a pris vraiment les devants.
Rappelons que les zones les plus touchées sont les communes de Cocody et Bingerville.
Et puis la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a statué hier jeudi sur 43 dossiers à Abidjan. Il s'agit de la première session du deuxième semestre de l'année 2023. Une diminution des accidents est constatée par rapport à la même période de l'année dernière, a reconnu le ministère de la Justice. Les différentes décisions vont des restitutions aux suspensions fermes du permis en passant par le sursis. Junior Cardin pour en savoir un peu plus.
À l'ouverture de la session, c'est Tiangouan Stéphane, secrétaire de la commission, qui va détailler la nature des dossiers soumis à l'examen du jour.
Nous avons 43 dossiers à analyser. Nous avons 8 accidents mortels, 16 accidents corporels, 16 accidents matériels et des infractions liées au non-respect du code de la route et aux conduites en état d'ivresse.
Au nombre de conducteurs interpellés, celui-ci a eu la chance d'être condamné à 3 mois avec sursis pour destruction de rétroviseur.
Comme ils l'ont dit, je peux commencer à rouler maintenant, mais à condition que je change mon permis de conduire qui est sous l'ancienne forme. C'est juste 2 rétroviseurs, quoi. Bon, il y en a un qui était un peu sur la chaussée. Malheureusement, je n'ai pas fait vraiment attention. Bon, c'est non-respect de la distance de sécurité par rapport au trottoir. Donc, on fera mieux la prochaine fois.
Par rapport au premier semestre de l'année passée, il y a une amélioration en ce qui concerne la prudence qu'observent les conducteurs. Selon Étienne Kouakou, président de la commission de retrait et de suspension du permis de conduire.
C'est vrai que nous constatons toujours des accidents, mais comparativement à la même période de l'année passé, nous avons une diminution, surtout en ce qui concerne le nombre de tués. Il y a un effet positif qui ressort quand même des conclusions de nos travaux. Je vais parler notamment de la vidéo-verbalisation qui aujourd'hui a amené les conducteurs à être beaucoup plus prudents en ce qui concerne la vitesse.
La plupart des conducteurs sanctionnés l'ont été pour, entre autres, imprudence, défaut de maîtrise, vitesse excessive, circulation en sens inverse. Étienne Kouakou les a donc encouragés à faire preuve de prudence en cette période de forte pluie.
Et c'est officiel, le concours du certificat d'aptitude à la profession d'avocat CAPA change de formule. Dans une conférence de presse hier, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Claude Maintenon, a dévoilé les nouvelles articulations de l'organisation de ce concours mis en berne depuis 4 ans, compte rendu Matatouré.
L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire se fait entendre et indexe l'État qu'il accuse d'être à l'origine du retard patent de la Côte d'Ivoire dans la mise en place d'une école de formation des avocats. Maître Claude Maintenon est le bâtonnier de l'Ordre.
C'est vers nous que se dirigent les regards interrogateurs et pourquoi le CAPA n'est pas organisé. Mais que font les avocats? La réalité sur le terrain, un centre de formation professionnelle tel que voulu par le législateur, à la charge de l'État, n'a jamais été constitué en Côte d'Ivoire. D'où vient que c'est à nous, les avocats, de créer ce centre? avec quels moyens.
L'examen du CAPA ouvert ne sera plus un examen universitaire, comme par le passé lorsqu'il était organisé par l'université Félix-Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, mais bien un diplôme professionnel. Et ceci conformément au règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.
C'est un diplôme qui se veut rigoureux et qui met les avocats, qui met les candidats à très forte contribution, contrairement au régime ancien. 6 matières principales avec un volume horaire de 25 heures minimum, tout le droit processuel.
On note plusieurs étapes, un test de sélection qui est ouvert depuis le 8 juillet dernier et qui va s'achever le 14 août prochain. Enfin, il faut retenir que 5 jours après l'ouverture du test de sélection, plus de 200 dossiers de candidature sont déjà enregistrés. Les résultats définitifs seront publiés sur le site internet du barreau de Côte d'Ivoire et affichés dans les locaux de la maison de l'avocat.
Sur le continent, en République démocratique du Congo, après le meurtre de l'opposant congolais chérubin Okende Senga Kinshasa, un premier suspect est entre les mains de la justice, a annoncé hier jeudi le procureur général près la cour de cassation. Il a été appréhendé hier sur le lieu où a été découvert le véhicule dans lequel se trouvait le corps sans vie du député. Les autorités poursuivent l'enquête judiciaire déjà ouverte. Un mot de sport, football. Abidjan a abrité hier jeudi la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, doublée du tirage au sort du Mondial 2026. César Yao revient sur les temps forts des travaux du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire.
La CAF a annoncé une augmentation significative de ses recettes commerciales lors de cette 45e Assemblée Générale Ordinaire. Le budget prévoit des revenus plus élevés dans les mois à venir et l'organisation reste prudente quant à ses dépenses alors qu'elle poursuit sa reprise économique. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a déclaré ceci.
En faisant d'Abidjan la ville haute de cette auguste Assemblée, vous réaffirmez la confiance que votre institution place en notre pays à l'orée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La tenue de cette auguste réunion est donc une preuve supplémentaire que l'excellence des liens de coopération qui existent entre la CAF et notre pays sont réels.
Plusieurs légendes ivoiriennes vainqueurs des Cannes 92 et 2015 ont été sollicitées pour apporter leur appui à la promotion et à la réussite de la Cannes 2024.
Abdoulaye Traoré, bon, c'est une très bonne promotion, surtout pour l'image de notre beau pays et en préparation aussi pour la Cannes. Le dernier Ruffin.
Moi, ça me va droit au cœur et puis ça me fait plaisir.
Autre temps fort de cette Assemblée Générale, le tirage au sort des 9 groupes des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2026, quelques ex-joueurs internationaux rencontrés sur place donnent leurs avis.
Emmanuel Eboué.
La Côte d'Ivoire a eu une bonne poule, mais il faudrait qu'on soit vraiment concentré.
On sait que ça ne va pas être facile parce qu'on est l'équipe à battre et on va essayer de se donner les moyens de se qualifier.
Les premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes joueront des matchs de barrage pour obtenir le 10e et dernier ticket qualificatif du Mondial 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord avec 48 pays participants.
Place à présent à notre invité de la rédaction, le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Il parle de la maladie mentale qui dit importante dans le pays et de la prise en charge des patients dont tous les agents de santé se sentiront désormais concernés. Professeur Kwa Amessan Médard répond à cet effet aux questions de Paul-Bénédicte Bolou.
Professeur Kwa Amessan Médard, bonjour. Que savoir sur la maladie mentale?
La maladie mentale, c'est d'abord un problème de santé. Dans les problèmes de santé, il y a deux grands groupes. Il y a des problèmes de santé physique et l'autre groupe qui est moins connu, c'est les problèmes de santé mentale. Les maladies mentales sont classées dans le groupe des problèmes de santé mentale.
Comment se fait aujourd'hui la prise en charge de cette maladie en Côte d'Ivoire?
Le modèle qui dominait et qui continue de dominer, c'était les hôpitaux psychiatriques, les services de psychiatrie dans les CHU ou dans la CHR. Progressivement, on se rend compte que ce modèle n'est pas efficace et ne facilite pas l'accès aux services de santé mentale pour tout le monde et partout en Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau du Programme national de santé mentale, on expérimente justement le dispositif de délégation de tâches et de faire de telle sorte que dans tous les centres de santé en Côte d'Ivoire, que ce soit dans des villages, que ce soit en milieu périurbain comme en milieu urbain, l'agent de santé soit en capacité de pouvoir repérer précocement des problèmes de santé mentale, de faire les premiers soins et secondairement d'orienter vers des spécialistes.
Professeur, de combien de psychiatres la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui?
On a une quarantaine de psychiatres. On va augmenter le nombre de psychiatres. On va les décentraliser dans les 33 régions sanitaires et dans les 112 districts sanitaires. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'avoir 1000 psychiatres. C'est de faire de telle sorte que les infirmiers, les sages-femmes, de la même manière qu'ils prennent en charge le diabète dans les soins de santé de base ou les soins communautaires, ils doivent être en capacité de le faire. Et l'expérience qu'on a fait dans la région de Béké et dans la région de Moronou ou la Nawa nous montre qu'un infirmier peut prendre correctement en charge, s'il est bien supervisé, les problèmes de santé mentale. Et deuxième chose, il peut offrir un soutien psychologique à tous les patients. Or, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas des signes, mais ils souffrent d'un épuisement cérébral, d'un épuisement physique, parce qu'on a l'aide numérique.
Alors justement, depuis la prise en charge a commencé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu un véritable progrès?
Ce qu'on observe, il y a une prise de conscience qui amène l'État à demander au programme d'expérimenter des dispositifs au niveau des services de santé mentale. On va vers vraiment toute la politique de décentralisation et d'intégration des soins de santé mentale au niveau primaire et au niveau communautaire. Première des choses. Deuxième des choses, les partenaires au développement ont commencé à intégrer avec le plaidoyer du ministère dans leur plan de financement, dans leur plan stratégique, la composante santé mentale. Troisième chose, la question de la santé mentale est multisectorielle. Donc les autres ministères commencent à se rendre compte qu'en fait, dans toutes les interventions, soit au niveau scolaire, universitaire, de la petite enfance, de la protection de l'enfant, au niveau de la famille ou de la femme, la composante santé mentale est nécessaire et est l'un des piliers stratégiques pour avoir des bons indicateurs d'amélioration de la santé ou de leurs interventions. On donne par exemple le cas de la situation des rapatriés de Tunisie. L'État, conscient de la composante santé mentale, a donné instruction au programme national de santé mentale de mettre une cellule d'urgence médico-psychologique pour pouvoir assurer la prise en charge en urgence de tous ces migrants ou ces rapatriés de Tunisie. Au niveau du ministère de la Jeunesse, la prise de conscience a mené à réfléchir sur un cadre de collaboration, sur comment les interventions en santé mentale vont permettre d'améliorer la réduction du niveau de migration irrégulière. Et au niveau des universités, on est en train de déployer des services de prise en charge psychologique et avec le secteur éducation, on discute pour renforcer les capacités des conseillers pour que la composante santé mentale puisse aider à améliorer la santé mentale des populations.
Alors que disent les chiffres face à cette maladie dans notre pays, le nombre de personnes atteintes?
On a 35 structures psychiatriques et les chiffres de ces structures, on tourne autour de 60 à 70 000 patients, mais c'est faible. Les structures non conventionnelles, c'est au moins 100 à 150 patients qui fréquentent ces structures régulièrement, mais on multiplie ça par 600 structures. Donc, on est autour de pratiquement 600 000 patients. C'est un facteur de vulnérabilité, mais l'État fait l'effort d'appliquer une gratuité ciblée pour ces populations, mais quand la personne ressort des hôpitaux psychiatriques, il y a toute la question de comment on fait sa réinsertion, comment on l'autonomise. Or, beaucoup de nos projets de réinsertion, d'autonomisation des femmes, des trucs, ne prend pas en compte ces données.
Comment aujourd'hui vous jugez la société ivoirienne face à toutes ces pathologies?
En tant que spécialiste, avec le phénomène des réseaux sociaux, tout se sait, tous les faits sont relayés et ça va entraîner un effet amplificateur qui va créer naturellement de l'émotion, de l'émoi, du désarroi collectif. On ne prend pas suffisamment en compte les questions de santé mentale. Si on prenait en compte, on allait pouvoir avoir des mécanismes pour pouvoir juguler ces phénomènes.
Merci professeur Kwame Dar.
À l'instant, l'invité de la rédaction, le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire, le professeur Kwame Médard, interrogé par Paul Bénédicte Bolou. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La Côte d'Ivoire est la fierté de tous, mais doit continuer à être rassemblée par une vraie réconciliation et démontrer cela lors des prochaines élections locales, dit le président ivoirien Alassane Ouattara, également président du RHDP, à l'attention des 231 candidats tête de liste de ce parti pour les municipales et régionales du 2 septembre prochain. C'était hier à leur cérémonie d'investiture à Abidjan. Et puis la Côte d'Ivoire connaît une sixième vague de l'épidémie de dengue avec 73 cas confirmés, dont 2 décès. La recrudescence due en partie à la grande saison des pluies. Le professeur Béné Bivro Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, faisait un briefing hier. Nous avons eu le point de Paul Bénédicte Boulou dans cette édition. Et puis sur le continent, meurtre de l'opposant congolais chérubin Okende Senga à Kinshasa. La police congolaise affirme avoir arrêté un suspect. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce 12 heures. L'actualité se poursuit sur Radio de la Paix avec la revue de presse pilotée par Carlos Condé.
Bonjour à tous. À moins de 50 jours des élections locales,